Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons avec la vertu de religion, qui est la plus importante en ce sens qu'elle règle l'activité principale du chrétien. Saint Thomas poursuit avec l'étude de la contemplation ou méditation. Ensuite, il parlera de la prière. Il est très important de distinguer les deux. La méditation ou contemplation, saint Thomas nous dit qu'elle est la source de la dévotion. C'est grâce à elle que nous nous mettons au service de Dieu. Si elle est la source de la dévotion, elle n'est pas à proprement parler un acte de la vertu de religion. Cela va peut-être vous surprendre. Elle est un acte essentiellement des vertus de foi, d'espérance et de charité. Tout d'abord, mettons-nous bien dans la tête, mes bien chers frères, que la contemplation n'est pas réservée à certains chrétiens qui en feraient profession, aux religieux, aux prêtres ou à des personnes ayant une vocation particulière dans le monde. Tout chrétien est contemplatif. La seule différence, c'est que vous avez des chrétiens contemplatifs dans lesquels la contemplation est la plus grande part de leur vie et ils ont peu d'action, et vous avez des chrétiens dans lesquels l'action tient la plus grande part de leur vie, mais même ceux-ci, leur action est appuyée sur la contemplation. D'ailleurs, on peut dire que lorsqu'il s'agit de la dévotion, c'est-à-dire du service de Dieu, seuls les contemplatifs sont actifs. On le voit très bien dans la vie de Mgr Lefebvre, qui fut un homme très actif, mais cela parce qu'il était un très grand contemplatif. On le voit également dans la vie d'un Bastien Thiry. Oui, je sais, je ne prends pas la vie d'un saint, mais c'est exprès pour vous prendre d'abord des modèles récents et puis pour vous montrer ce qu'est la vie chrétienne dans un chrétien qui n'est pas canonisé, qui a poussé sa vie chrétienne jusqu'au bout. Et Bastien Thiry était un grand contemplatif. Il suffit de lire ses lettres, de lire le livre écrit par sa femme. Et c'est parce qu'il était contemplatif qu'il fut ému. Qu'il fut ému par les atteintes à la vertu, par l'âme de la France qui se délitait. Et c'est pour ça qu'il a agi. Je vous disais donc, tout chrétien est nécessairement contemplatif. Pourquoi ? Parce que tout chrétien a la foi, et la foi a pour conséquence immédiate de prendre nos vies. Quand on sait que Dieu est Trinité, quand on sait que Jésus est Dieu, quand on sait que la Très Sainte Vierge est mère de Jésus, c'est-à-dire mère de Dieu, quand on sait que Jésus-Christ nous a donné par son Église sa grâce, qu'il agit dans nos âmes, lorsqu'on contemple, lorsqu'on sait toutes ces choses-là, on les contemple avec admiration, bien entendu, et nécessairement cela change une vie. D'ailleurs, on le dit que des personnes se convertissent, c'est-à-dire que cela les retourne. Elles ne se contentent pas d'adhérer à des vérités auxquelles elles n'adhéraient pas autrefois, mais cela les retourne. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin nous dit que la contemplation est la source de la dévotion, c'est-à-dire la source du service de Dieu. Mais la contemplation, ce n'est pas seulement la vertu de foi, c'est également la vertu d'espérance qui entraîne le désir de rejoindre Dieu au ciel et qui va être un puissant moteur pour, dans notre vie, travailler à rejoindre Dieu et par conséquent nous écarter de tout ce qui attire dans le monde, vers en bas. Et puis, la méditation, évidemment, est un acte de charité. Je vous rappelle que la charité, c'est l'amour de Dieu, que l'amour du prochain n'est qu'une conséquence de l'amour de Dieu, n'est-ce pas ? C'est très important, cela. La contemplation est un acte de la vertu de charité, parce que dès qu'on contemple Dieu, on est pris par son amour et on lui rend amour pour amour. Évidemment, on parle de la véritable contemplation chrétienne et non pas d'une étude qui serait faite froidement par quelqu'un qui n'aime pas Dieu. On n'appelle pas cela de la contemplation ni de la méditation. Pas au sens chrétien toujours. Cette contemplation, cette méditation est notre vie. Nous vivrons de cela au ciel éternellement. C'est cela notre unique activité au ciel, que de contempler Dieu, d'être émerveillé de sa grandeur, de sa majesté, de sa perfection, de l'aimer autant qu'on pourra l'aimer, sans aucune limite. Et c'est à quoi nous tendons. Et pour gagner cela, nous savons que l'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu, et par ce moyen contempler éternellement, parce que sauver son âme, cela veut dire ça, contempler Dieu éternellement, vivre au ciel. Et cela donc est un puissant moteur pour la dévotion. Je vous fais remarquer que, une fois de plus, que la contemplation ne sert à rien. J'exagère, je sais, je force le trait, je sais, mais c'est pour que vous compreniez bien. On contemple Dieu pour le contempler, on contemple Dieu pour être avec lui. C'est ce que je vous disais dans le sermon sur la charité. On aime Dieu pour aimer Dieu. N'allez pas faire de la contemplation le moyen d'agir comme il faut. Non, la bonne action, la dévotion, le service de Dieu sont des conséquences de la contemplation, mais la contemplation n'a pas pour but cela. Disons qu'elle entraîne tout à sa suite. On contemple pour contempler, et c'est tellement important de contempler Dieu, tellement important de vivre avec lui, que cela prend tout. C'est une inversion fréquente que de croire qu'on contemple uniquement pour bien agir. On pourrait très facilement comprendre à l'envers le petit livre « L'âme de tout apostolat ». Mais si on le comprend à l'envers, c'est parce qu'on n'a pas l'esprit bien disposé et bien tourné. La prière, nous le verrons dans le sermon de dimanche prochain, la prière, au contraire, a quelque chose d'utilitaire. On prie pour obtenir quelque chose dont on a besoin. Et vous voyez donc la grande différence. Vous avez la méditation qui est pour Dieu exclusivement, la contemplation, vivre avec Dieu, pour la joie d'être avec Dieu, qui prend notre action, qui prend notre vie, qui nous emporte, ça c'est la dévotion, et nous constatons nos faiblesses, et nous connaissons la puissance de Dieu, et à ce moment-là, nous prions, troisième étape, nous prions Dieu de nous aider à bien le servir et à bien le contempler pour gagner notre ciel. La prière, elle, a un but concret, obtenir quelque chose. La méditation porte sur Dieu, la Sainte Trinité, mais saint Thomas fait une remarque très juste. Il dit que, en principe, Dieu est ce qui nous enthousiasme le plus, mais qu'en raison de notre faiblesse, la faiblesse de l'esprit humain, dit-il, nous avons besoin, encore une fois, d'être menés par la main à la connaissance des choses divines. Je lis saint Thomas, question 82, article 3. Nous avons besoin d'être menés par la main à la connaissance des choses divines et à l'amour, à la dilection. Et nous sommes menés par des choses connues, sensibles, que nous pouvons regarder de nos yeux. Parmi elles, la première de toutes, c'est la sainte humanité du Christ. Alors il y a deux remarques à faire. La première, c'est que l'humanité du Christ est la première voie pour nous conduire dans la contemplation vers Dieu. Et la deuxième, c'est que saint Thomas emploie de nouveau le terme « manuduction », et cette fois-ci pour la sainte humanité du Christ, où on aurait pu dire « Ah, puisque c'est l'humanité du Christ, elle est sacrée, donc elle n'a pas de limite, enfin on peut la contempler sans limite ». Et non, nous sommes pris par la main. Le but n'est pas l'humanité du Christ. L'humanité du Christ est un moyen. Et cela renforce ce que je vous disais à propos du sacrement. Des sacrements, ne confondons pas moyen et but. Vous me direz que la sainte humanité du Christ ne peut jamais nous conduire en dehors de Dieu. Oui et non. Et on pourrait en dire autant des sacrements, du coup. Oui et non, la sainte humanité du Christ, par elle-même, ne conduit qu'à Dieu, mais nous pouvons en faire un mauvais usage. De même, les sacrements ne conduisent qu'à Dieu, mais on peut en faire un mauvais usage. Donc nous fermons cette parenthèse, mais qui est importante, vous voyez, parce qu'elle nous rappelle une fois de plus que le chrétien travaille dans la vie intérieure, dans les actes intérieurs, qu'il cherche la contemplation éternelle du ciel qui sera... Il n'y aura plus d'action à ce moment-là. Et s'il travaille ici-bas, nous ne disons pas qu'il ne doit pas travailler, mais nous disons qu'il doit travailler dans le but d'arriver à la contemplation. Et saint Thomas, tout à la fin de son traité de morale, lorsqu'il étudiera la vie active et la vie contemplative et les rapports entre les deux, il dira que la vie contemplative est au service de la vie active et que, normalement, plus on avance dans la vie, plus la vie active diminue, plus la vie contemplative grandit. C'est ce que je vous ai dit dimanche dernier en vous parlant des vieillards qui ne peuvent plus aller à la messe et qui, cependant, n'ont pas reculé dans l'amour de Dieu, au contraire, à condition de bien s'y prendre, bien entendu, ils avancent dans l'amour de Dieu. Monseigneur Lefebvre insistait beaucoup sur la contemplation de Jésus-Christ, mais il nous disait « faites bien attention, prêchez bien aux fidèles, et c'est ce que je fais, mes bien chers frères, prêchez bien la divinité du Christ à travers son humanité. » Et dans les exercices de saint Ignace, ou bien dans la contemplation du rosaire, qui sont très proches l'un de l'autre, c'est cela que nous devons chercher. Nous devons avoir sous les yeux la sainte humanité du Christ pour trouver sa divinité. Quelques mots sur les méthodes d'oraison. Tout d'abord, ne vous fixez pas sur une méthode de méditation ou de contemplation. Ne croyez pas, bien sûr, la méthode est importante. Ce don de Montléon dit qu'une des premières choses, c'est de bien se tenir. Elle dit, vous avez énormément de gens qui gâchent leur contemplation, leur oraison, ce sont des termes interchangeables, hein, parce qu'ils se tiennent mal. Il ne dit pas qu'il faut se mettre à genoux, vous avez des vieillards qui ne se mettront pas à genoux et qui peuvent méditer dans leur lit, ça n'est pas la question. Mais celui qui doit se mettre à genoux ne se mettra pas au lit. Celui qui doit se mettre à genoux ne s'assiera pas. Celui qui doit être assis parce qu'il ne peut pas être à genoux ne se couchera pas, etc. Et puis si on est à genoux, on n'est pas affalé sur un prie-Dieu, on se tient droit. La méthode qui me paraît la plus universelle est donnée par les pères de l'Église et rappelée par Don de Montléon. Première étape, nous rappeler que nous sommes tout d'abord nous mettre en présence de Dieu, bien entendu, considérer Dieu, que nous voulons aimer, que nous voulons servir. Première étape, nous rappeler que nous sommes de pauvres pécheurs, non pas seulement dans le but de demander pardon, mais surtout dans le but de demander son aide à Dieu. Deuxième étape, contempler les merveilles de Dieu. Et troisième étape, les actes de charité. Ces étapes prennent plus ou moins de temps, il ne s'agit pas de trois tiers de temps, il s'agit de trois étapes. Même celui qui est pris par l'amour de Dieu doit se rappeler qu'il est un pauvre pécheur. Et le pauvre pécheur, lui, sera saisi par la bonté de la miséricorde divine. Plus tard, il arrivera à des considérations plus profondes sur la charité. Les actes de volonté, les actes de charité plus exactement, tout d'abord s'offrir à Dieu, se donner à lui. Et si nous nous le donnons évidemment avec toutes nos activités, toutes nos puissances, c'est la très belle prière de Saint Ignace de Loyola, « Prenez, Seigneur, ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, tout ce que je suis, tout ce que je possède. C'est vous qui me l'avez donné. Je vous le rends sans rien me réserver. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce. J'en serai assez riche et ne désire rien d'autre. » Vous voyez qu'on demande à Dieu amour et grâce, c'est-à-dire que on prie pour être avec lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le caractère totalement gratuit de la prière. Il y a d'autres traductions de cette belle prière de Saint Ignace. Parce qu'on veut se donner à Dieu, alors on va prendre des résolutions pour bien le suivre. C'est-à-dire qu'on va concrétiser cette offrande qu'on fait de soi-même et qu'on dit à Dieu, si c'est l'oraison du matin, « Seigneur, ou mon Dieu, aujourd'hui, je vais vivre en union avec vous, en faisant des efforts de telle ou telle manière, en étant attentif à tel ou tel aspect de ma vie. » Il faut là être très concret, c'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de la prière, il s'agit de voir Dieu qui agit en nous. C'est la dernière contemplation des exercices de Saint Ignace. Ça mériterait, je pense, un sermon à soi seul, cela, qui est très très belle et qui montre vraiment Saint Ignace arrive à l'union à Dieu. On a dit que les jésuites étaient des gens efficaces. Non, ils sont efficaces parce qu'ils sont des grands contemplatifs. Ce sont des grands contemplatifs qui, étant dans la main de Dieu, sont mus par Dieu dans toutes leurs actions et sont d'autant plus efficaces que c'est Dieu qui agit à travers eux, les bons jésuites, hein, parce que, hélas, ils se sont très vite pervertis, enfin, un grand nombre se sont vite pervertis. Et je pense justement parce que il y a dû y avoir un manque de contemplation humble, devant les succès de leurs actions. Et il faut faire très attention à cela. Quand le bon Dieu donne le succès à l'action, il faut redoubler de contemplation et d'humilité. C'est pour ça d'ailleurs que le bon Dieu donne de nombreux échecs, parce que cela nous rappelle que c'est lui qui dirige. Il n'aura aucun mal à faire réussir ce qu'il a fait échouer une première fois, mais il nous rappelle que ce n'est pas nous qui agissons, c'est lui. Donc je vous disais, les actes de charité, premièrement s'offrir, deuxièmement prendre des bonnes résolutions, suivre Jésus-Christ. Et la résolution, c'est suivre Jésus-Christ. Puisque nous avons besoin d'une manuduction, puisque le Christ nous prend par la main, nous disons, Seigneur Jésus-Christ, comment auriez-vous agi à ma place aujourd'hui? Comment agiriez-vous? Comment vous y prendriez-vous avec telle et telle personne que je dois rencontrer, avec telles et telles actions que je dois mener? Nous suivons notre Seigneur qui est un modèle. Troisièmement, il faut prier, c'est-à-dire demander des grâces pour y arriver. Ça sera le serment de la prochaine fois. Et quatrièmement, acte d'union à Dieu. Alors ça, c'est le plus élevé, mais même un débutant doit le faire. Même si ça lui paraît presque rien du tout, même un débutant doit le faire. Mon Dieu, c'est à vous que je suis uni, pas aux gens du monde, pas au monde. Mon attache, c'est vous, mon attache, ce n'est pas le monde. Et vous, vous êtes très élevé au-dessus du monde, très très haut. Et c'est toute la vertu d'espérance. Nous osons nous attacher à Dieu qui est si haut, si élevé. Et pour cela, nous cessons de nous occuper des choses d'ici-bas qui pourraient nous retenir, parce que ce n'est pas à elles que nous sommes attachés. Voilà ce qu'est une vraie vie chrétienne. J'étais avec un confrère il y a 2 jours et il avait mené une mission en Albanie et il me dit ce fut un grand échec, mais ce fut les plus belles actions de ma vie sacerdotale. Et tout d'abord, certainement, ces missions difficiles ouvrent notre esprit. En nous faisant considérer la misère humaine, elle nous rappelle la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi saint Thomas dit que les petits, les humbles et les femmes sont facilement plus pieux que les hommes, parce qu'ils sentent plus leur petitesse, leur faiblesse. Et l'homme court le risque, lui, de s'enorgueillir. Et puis, une telle mission est malgré tout une grande richesse et une grande joie, et donc un grand succès d'une certaine manière, malgré l'échec, parce qu'on agit avec Dieu gratuitement, pour Dieu. On fait ce que Dieu veut. On est avec lui, on donne les âmes à Dieu, on donne Dieu aux âmes. On vit dans l'union à Dieu et on amène les âmes à l'union à Dieu. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Et même si après cela, il y a un échec, une seule âme est un grand diocèse, disait saint François de Sales, une seule âme vaut la peine qu'on consacre toute une vie pour la sauver. Demandez à la Sainte Vierge de vous aider à bien faire oraison. Il faut faire oraison tous les jours. Ne serait-ce que 10 minutes, tous les jours, s'arrêter, se mettre en présence de Dieu. Qui êtes-vous, mon Dieu? Que suis-je? Qu'attendez-vous de moi? Comment me dirigez-vous? Comment vais-je vous suivre aujourd'hui? Voilà. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, par les mains de la très sainte Vierge, sa mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.